Vous écoutez le podcast
Les Agités du Bocal.
Conseil de développement.
Grenoble-Alpes-Métropole.
Marcher pour comprendre la forêt et ses enjeux. Les Agités du Bocal vous présentent le sixième opus des marches sensibles du C2D consacré à l'arpentage de cet espace complexe qu'est la forêt. Cette marche sensible s'est déroulée au Luitel un samedi matin de juillet 2023. Elle était accompagnée par Maud Gironde-Duché, responsable d'unité territoriale de Grenoble à l'ONF, et par Raphaël Lachelot, doctorant, dont la recherche porte sur la mise en évidence des coévolutions passées et présentes entre phénomènes environnementaux, dynamiques sociales et économiques. Opérations de reboisement, dépérissement dû au changement climatique, recherche de l'équilibre forêt ongulée, multifonctionnalité et dimension symbolique de la forêt, rôle de la filière bois dans le maintien de l'équilibre, tous ces sujets étaient notamment au cœur des échanges de cette matinée. Mais on ne vous en dit pas plus et on vous laisse plonger à votre tour dans cette expérience immersive au cœur de ce qui représente près de 60% du territoire de Grenoble-Alpes-Métropole. Bonne écoute.
Pour zoomer un peu plus ici, on est en forêt communale de Séchilienne, donc selon la formule consacrée, bienvenue en forêt communale de Séchilienne. Nous sommes sur une forêt qui fait à peu près 600 hectares, donc c'est un gros massif forestier qui est donc sur la chaîne de Belledonne et qui est entouré par d'autres massifs publics, en l'occurrence la forêt communale de Volnavé-le-Bas, la forêt domaniale de Prémol, la forêt indivise des Volnavé, qui mélange RB, Volnavé-le-Haut, Volnavé-le-Bas et Briey-en-Gonne. Donc du coup, c'est des choses qui sont un petit peu particulières. Quand je parle de forêt communale, c'est vraiment la propriété de la commune. Mais la commune est obligée, dans le code forestier qui date de 1827, Raphaël nous en parlera peut-être tout à l'heure, la commune est obligée d'avoir un seul gestionnaire unique qui est l'ONF. Ils ne peuvent pas choisir un gestionnaire privé, dire nous on se fait, on s'occupe ça dans notre coin. Non, tout organisme public doit faire gérer ses forêts par l'Office national des forêts. C'est ce qu'on appelle relever du régime forestier ou encore être soumis au régime forestier. Alors, c'est des termes qui sont un peu barbares aujourd'hui parce qu'on disait on va soumettre la forêt comme si c'était un asservissement, quelque chose comme ça. Et donc, c'était un peu vrai pendant longtemps. Maintenant, on dit plutôt que c'est une forêt qui relève du régime forestier. C'est un peu plus policé, on va dire.
Oui, voilà. De domaniale, communale, indivise, vous pouvez simplement.
Oui, bien sûr, forêt domaniale, c'est les forêts du domaine de l'État, du domaine privé de l'État. Donc, c'est vraiment la forêt directement. Donc, là, c'est l'ONF qui gère, il n'y a pas de débat. Donc, ça, c'est la première chose. Généralement, les forêts domaniales sont issues historiquement, Raphaël le rappellera probablement, soit elles ont deux origines. Soit c'était des forêts ecclésiastiques, donc les moines. C'est là pour la domaniale de la Grande Chartreuse, par exemple.
Et à la Révolution.
Et à la Révolution et Préemption, ou des forêts royales. Chez nous, oui, on en a quelques-unes dans les Chambarans, par exemple. La forêt domaniale des Chambarans, qui était une zone de chasse, manifestement, pour le dauphin, c'est ça, enfin, la zone de dauphin du.
Il y a un espace de dialogue entre tous ces propriétaires.
Il y a deux mondes. Mais sachant qu'il y a déjà un cadre réglementaire qui est différent entre la forêt publique et privée, il y a une originalité française, on a un code forestier pour les forêts publiques qui est très strict, et un code et les réglementations forestières pour les forêts privées sont très souples. Ce qui peut poser un petit peu des problématiques de gestion. Et il y a un autre facteur qui fait que la forêt privée est structurée de façon très différente, c'est que les propriétaires forestiers en France, la propriété forestière, ce sont des tout petits propriétaires.
Morcelés.
C'est très morcelé. Il y a beaucoup de personnes qui ont une forêt.
Qui ne savent pas.
Mais qui n'en ont pas suffisamment pour être exploitants.
Ça veut dire qu'une très grande partie de la forêt, on peut y faire n'importe quoi.
J'exagère, mais c'est-à-dire que si vous dites j'ai envie de tout couper, je peux tout couper. Si vous dites j'ai envie de laisser ça en libre évolution, vous pouvez. C'est vraiment une très grande liberté qui est laissée aux propriétaires forestiers.
Mais ça, alors bon, ça peut donner beaucoup de coupes rases, et c'est, dans les faits, c'est le cas. Mais ce qui est aussi un peu contre-intuitif, c'est que en termes d'innovation, en termes de sylviculture, ben on peut en avoir beaucoup plus dans le privé, parce que un exploitant peut se dire, enfin un propriétaire peut se dire, moi je vais jouer. J'ai des collègues d'une institution qui s'appelle le CIRAD, c'est un couple d'ingénieurs forestiers, ils se sont achetés des forêts, c'est leur joujou. Et ils font des tests. En tant que conseil de développement, ça c'est une chose à vraiment prendre conscience, qu'il y a toute une partie où si la métro veut avoir une action, et ben il y a un travail à mener avec des propriétaires privés. C'est pas infaisable. C'est ce qu'a réussi à quand même à faire le parc naturel régional de la Chartreuse et l'ONF, notamment avec la création de l'AOC Bois de Chartreuse. Et les parcs des Bauges et le parc de Vercors ont des relations très proches avec beaucoup de propriétaires privés, mais ça demande du travail, parce qu'il faut mettre beaucoup de gens autour de la table.
Je ne vais pas déflorer trop le sujet. Je finis juste. 600 hectares en gestion sur cette forêt de Séchilienne. C'est à peu près 2500 mètres cubes de bois qui sortent par an ici. Des très forts enjeux environnementaux parce qu'on est dans le bassin d'alimentation du Luitel. Tout à l'heure, on était dans la réserve naturelle nationale du Luitel, qui est une tourbière. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive dans cette tourbière. Et donc, les actions forestières, pendant des années, ont pu modifier les alimentations en eau de ce bassin versant. Donc aujourd'hui, avec Carole Desplanques, qui est ma collègue, qui est également conservatrice de cette réserve, on a mis en place des solutions au niveau de la desserte et de l'exploitation des bois pour que ça n'altère pas le fonctionnement de la tourbière. Donc, très forts enjeux environnementaux. Des périodes également d'exploitation où on essaye de ne pas intervenir sur les périodes les plus sensibles pour les nidifications ou pour les pontes d'amphibiens notamment. On ne peut pas intervenir non plus quand il y a trop de neige, parce qu'ici on est quand même assez haut en altitude. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire, on a également une action au niveau des chasseurs, parce qu'on le verra, vous avez traversé des forêts qui sont gérées de façon en irrégulier. Donc quelqu'un me parlait de couvert, de sylviculture à couvert continu. Donc c'est la même chose, sauf que nous on parle d'irrégulier ou de jardiné. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une forêt plantée. Tout à l'heure j'ai entendu dire que les forêts sont plantées, les forêts sont culturelles. Pense que c'est un terme pour un socio-écosystème. Par contre, le travail du forestier et de la forestière, c'est de gérer la lumière qui arrive au sol pour avoir de la régénération naturelle. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'avoir des semis qui viennent naturellement. La forêt, elle fait ça très bien toute seule. Par contre, en effet, quand le couvert est trop dense, le semis ne peut pas germer. À un moment donné, il y a un petit souci. Donc du coup, il faut gérer la lumière qui arrive au sol. Et donc ça, c'est mon travail et c'est le travail de mes collègues également. Par contre, parfois, il arrive, et c'est ce qu'on va aller voir, on se retrouve dans une impasse, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à régénérer naturellement nos forêts. Et en plus, on peut se prendre des petites catastrophes successives dans une forêt, qui fait qu'on arrive à un système qui est complètement bloqué, on doit partir sur une nouvelle énergie, un nouveau cycle, c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un phénomène qui est bloqué, et là où la chasse peut être importante, c'est que nous, on a des densités d'ongulés. Donc, je parlerai d'ongulés aujourd'hui, je ne parlerai pas de gibier, parce que gibier pour moi est un mot connoté pour les chasseurs qui voient l'animal comme quelque chose qu'ils vont pouvoir tuer et manger. Moi je parle d'ongulés parce qu'ils font partie de l'écosystème, ils participent à cet écosystème, ils sont importants, c'est juste que quand ils sont en trop grand nombre, ça pose des soucis, parce que en fait ils vont aller grignoter les bourgeons de mes jeunes semis, notamment tout ce qui est résineux, ils adorent.
Ouais, c'est les bonbons.
C'est des sapins, les érables, le hêtre, bon pas trop, mais quand même un peu. Les épicéas, ça pique, donc c'est un petit peu limité. Mais ils bouffent tout, c'est des tondeuses sur pattes quand ils sont trop nombreux. Et donc quand vous n'avez pas de prédateurs naturels, ce qui est le cas ici en fait, on a des passages de loups, on n'a pas de meutes qui sont fixées, on n'a pas de lynx ici, donc en termes de grands prédateurs, on est un peu limité pour les réguler. Donc qu'est-ce qui reste en prédateur? Eh bien, il reste les chasseurs. Et les chasseurs, il faut qu'ils jouent ce jeu-là. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des communautés de chasseurs, ça peut être intéressant aussi d'entamer ce débat-là tout à l'heure. Eh bien, il faut qu'ils puissent jouer le jeu en disant on souhaite avoir un équilibre forêt-ongulé et pas un déséquilibre. Actuellement, on est dans un déséquilibre, ce qui fait que Je n'ai plus de régénération naturelle depuis plus de 25 ans. Hein, c'est-à-dire que vous allez en voir hein, quelques-uns, des petits trucs qui sortent, etc. Mais pas suffisamment en termes de densité pour renouveler ma forêt. Donc moi, en tant que forestière, je continue de passer pour prélever les arbres qui sont intéressants d'un point de vue pour créer des charpentes, pour créer du parquet, pour créer divers matériaux en termes de bois. Mais à un moment donné, si je continue, que je prélève et que je n'ai pas de régénération qui vient en dessous, le système se casse la binette. Ce système qui fonctionne depuis des centaines et des centaines d'années. Donc aujourd'hui, on est face à ce cas-là, avec un équilibre forêt ongulée qui est rompu et un changement climatique qui nous arrive en pleine face. Donc du coup, je dois gérer de front deux choses. Et des fois, j'arrive à des situations de blocage, comme on va les voir tout à l'heure. Et donc, le forestier et les forestières cherchent des solutions pour pallier à ces difficultés impressionnantes.
On se met en mouvement, puis on reprend plus.
Vous allez
c'est bien de rebouger.
Ça, des fois en forêt, c'est un peu plus humide. Le brouillard, il reste un peu plus longtemps. Il y a des champignons, parce que c'est pas que l'eau dans le sol, c'est également l'humidité atmosphérique qui entoure les arbres. Et donc, quand vous avez ces phénomènes d'assèchement de l'humidité atmosphérique, moins de précipitations, des précipitations qui sont très concentrées à un moment donné de l'année, et puis après plus du tout pendant je ne sais combien de mois et de semaines et de mois, vous avez des arbres qui vont souffrir et qui vont faire. Il faut imaginer un verre avec une paille, et puis vous aspirez votre verre, votre diabolo, et puis à un moment donné, vous arrivez au fond de votre diabolo, et puis ça fait des bulles, et puis vous aspirez de l'air. Et bien c'est pareil pour les arbres. Alors, si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez 10 pailles autour, parce que c'est le cas en fait en forêt, hein, c'est-à-dire qu'ils pompent tous au niveau des mêmes endroits, hein, au niveau de leurs racines, et bien ça, ils vont pomper encore plus vite et ils vont arriver encore plus rapidement à un phénomène de sécheresse. Et donc les arbres arrivent très bien à juguler ces phénomènes de sécheresse pour une année, pour deux années, pour trois années. Au bout d'un moment, en fait, quand ça dure pendant 5 ans, là, ça fait 5 années consécutives où on a des sécheresses de plus en plus rudes et difficiles, et bien ils font un phénomène qu'on appelle des phénomènes de cavitation. Donc ça, c'est les chercheurs de l'INRAE qui nous le montrent. C'est comme si vous aviez, on va faire un peu d'anthropomorphisme, des embolies pulmonaires. C'est-à-dire que vous avez de l'air qui rentre dans votre organisme à des endroits où normalement on ne demande pas à ce qu'il y ait de l'air à ces endroits-là. C'est la même chose pour eux. Au niveau de leurs canaux de sève, il y a de l'air qui rentre. Et donc vous imaginez, pour aller pomper de la sève jusqu'à 30 mètres de hauteur, c'est comme les châteaux d'eau. En fait, il y a une énorme pression et une énorme capacité d'aspiration, on va dire, pour amener de la sève tout en haut. Et donc à un moment donné, votre colonne, alors on va comprendre comme c'est une colonne d'eau avec la sève, il y a de l'air qui rentre, ben vous ne pouvez plus aspirer en fait. À un moment donné, il y a un phénomène physique qui fait que ça ne s'aspire plus. Donc les arbres trouvent des alternatives, des itinérabis en fait dans leurs canaux, mais à un moment donné, quand vous avez une proportion, alors ça peut valoir entre 30 et 70% de vos canaux qui sont atteints par des phénomènes de cavitation, l'arbre va présenter des phénomènes de dépérissement, donc il ne va pas forcément crever tout de suite, mais il va présenter des phénomènes de dépérissement. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'arbre quand il voit qu'il est un peu mal en point? Il va perdre un certain nombre d'aiguilles chez les résineux, chez les feuillus, il va perdre un certain nombre de feuilles, parce que du coup ça va limiter l'évapotranspiration, il va essayer de se décharger comme une montgolfière, il se décharge de ses sacs de sable, et puis à un moment donné, vous avez quand même l'écorce qui va être fragilisée, vous allez avoir peut-être des fois plus de production de cônes, de pommes de pin, parce que du coup les arbres souhaitent se reproduire, il y a des phénomènes hormonaux qui s'enclenchent, et puis ça, en fait, il y a des petits insectes qui le sentent très bien.
On ne peut pas imaginer que si on a de plus en plus de sécheresse, ils s'adaptent et ils résistent mieux. C'est-à-dire que.
Qu'est-ce qu'elle disait?
Pour mettre un petit point de contexte, on a une problématique justement. Alors, il y a des essences, des espèces d'arbres qui vont mieux tenir à ça. Mais les espèces qu'on appelle pionnières, donc c'est les premières, parce que. Alors là, il faut que je revienne un petit peu, je vais revenir après. Comme l'épicéa, ou le pin sylvestre, ou le mélèze. Sont des espèces qui ont des canaux un petit peu plus gros, qui poussent, qui sont faites pour pousser vite, et elles sont plus touchées, elles sont moins résistantes. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de... Là, c'est vraiment des recherches en cours, mais c'est ce qui expliquerait le fait que ces essences pionnières sont plus sujettes, à moins... Enfin, qui résistent moins bien à ces phénomènes de sécheresse. Et qu'est-ce que fait l'humain, du coup, pour se garantir la pérennité? Il va utiliser et modifier le rythme d'une forêt. Donc nous, quand on a l'image d'Épinal, vous demandez à un enfant ou à quelqu'un qui ne sait pas bien dessiner comme moi de dessiner une montagne, il va vous faire un triangle, des forêts en bas, alpages, et puis l'étage alpin, la neige, etc., etc. Très simplement. Alors, c'est très joli et ça peut être en nous l'incarnation de la nature, celle où on a envie d'aller se balader. Mais ça, si on est sur des peuplements en libre évolution, ça n'existe pas. Il faut imaginer une forêt qui est plutôt un chaos. C'est-à-dire qu'on le voit bien sur les endroits où il y a où on abandonne le pâturage et où il y a des forêts qui repartent. D'abord, vous avez un pré, de l'arbre. Vous allez avoir des plantes un petit peu plus grosses qui poussent et qui ouvrent les sols. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des lignes basses et des arbustes qui restent assez bas. Puis des arbustes. Voilà, typiquement ce qui est en train de repartir là.
Vous avez les genêts, les bouleaux, voilà. Quelques épicéas qui arrivent, des pastiers également très
importants. Voilà, on peut avoir du genévrier, de l'aulne, etc.
Du sorbier des oiseaux.
Voilà. Et puis, on peut avoir des conifères. Mais par exemple, si on prend la succession des conifères, l'épicéa ne pousse pas sous lui-même. L'épicéa, il a besoin de quelque chose de lumineux. Donc une succession libre va être, et moi je le vois sur certaines de mes forêts qui sont plus exploitées, c'est-à-dire que c'est des forêts d'épicéa, mais ce qui repousse en dessous, c'est du sapin.
Je suis absolument pas spécialiste, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que dans ces stratégies anciennes, ça a plusieurs siècles, c'est des stratégies qui courent sur de très longues périodes d'aménagement du territoire, qui sont quand même un peu une leçon par rapport à aujourd'hui où il va nous falloir aménager le territoire pour s'adapter aux bouleversements climatiques. Et je trouve intéressant qu'il y a eu ces savoirs-là et qu'on ait momentanément, on a été, en tout cas nous sommes tous nés dans des sociétés court-termistes et l'on a sans doute à réapprendre des modes de faire qui s'appuient sur des stratégies qui dépassent largement la durée de vie d'un individu.
Moi, par exemple, les forêts que j'étudie, l'arbre arrive à maturité entre 120 et 180 ans. Donc le forestier qui s'occupe, qui voit une repousse et qui dit ben, « celle-là, on va la préserver, ça va faire un bel arbre », c'est pas lui qui va la récolter, c'est pas le suivant, c'est pas encore celui d'après. Et éventuellement, s'ils ont fait tous des carrières longues, et c'est pas le cas, c'est peut-être le quatrième, mais c'est souvent le 5, 6, 7, 8e, voire 10e.
Oui, moi je veux revenir à... Du coup, qu'est-ce que fait un conseil de développement dans un débat pareil? Il y a un autre groupe, c'est le groupe RER, où on projette à 40 ans, et tout le monde s'évanouit en disant « 40 ans, c'est trop long ». Et là, on est sur un groupe où on travaille il y a plusieurs siècles, donc c'est assez savoureux, parce que Marc, dans ton groupe, je sais pas comment tu vas faire, hein, votre copilotage,
tranquille.
Mais je trouve du coup, ça nous raconte quelque chose de très intéressant sur comment un conseil de développement peut être là, du coup, pour raconter des choses qui sont assez indicibles, qui n'ont ni solution technique immédiate, qui sont pour le citoyen, pour l'élu, enfin, pour tout le monde, sont infernales, mais pour autant qu'il faut raconter quand même. Donc, je trouve ça très... J'ai une petite question pour mettre une note d'humour. Là, il y a un gros arbre avec des fils au-dessus, puis tout est dévasté au-dessus. Vous nous en direz quelque chose, parce qu'il est curieux ici.
Je vais rebondir sur ce que dit Alain, je vais quand même en dire deux mots, parce qu'on parle beaucoup du bois. On n'a pas encore parlé beaucoup du bois énergie. Et jusqu'au métier de 1916, c'était quand même une première des sources d'énergie, en particulier pour la métallurgie en fait. Et là, vous avez exactement deux sources d'énergie renouvelables l'une à côté de l'autre. Donc à droite, le bois, qui a été dominant jusqu'à la milieu du 19e siècle, et celle de gauche, qui est l'hydroélectricité, parce que cette ligne, elle vient du barrage de Grand-Maison. C'est le barrage le plus puissant.
Oui, c'est l'IV, là, ça passe à l'IV.
Voilà, et elle remonte jusqu'à Grand-Maison, jusque dans l'Oisans, et Grand-Maison, c'est le barrage hydroélectrique le plus puissant de France.
Et tous les ouvrages de la vallée de la Romance qui bénéficient.
Ils ne sont pas que sur cette ligne, là, il n'y a vraiment que Grand-Maison sur cette ligne-là pour le moment.
Ah, d'accord.
Et donc, oui, c'est à 400 000 de Grand-Maison. En fait, si vous suivez les fils, vous arrivez directement à la centrale hydroélectrique du Vernet. Et donc, ça, c'est l'énergie renouvelable du 20e siècle, en fait. Donc on a deux énergies renouvelables qui se côtoient et c'est bien que dans une marche sensible, on lève un peu les yeux et qu'on voit qu'en fait c'est complémentaire, quoi.
Ben, je pense qu'il y a un enjeu au niveau du récit. Après, moi, en tant que chercheur, j'ai envie de vous dire, on peut tout laisser comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de gestion pour une forêt. C'est juste que...
Mais nous, on ne peut plus. Nous, on est ailleurs.
Non, moi ce que je veux dire c'est juste que si une forêt en libre évolution sans gestion, donc, ce qui n'existe pas, hein, parce que même les libres évolutions, on décide de faire de la libre évolution, hein, ça donne un résultat différent. Moi, ce que je trouve important, c'est pas de se dire qu'on peut laisser des endroits en libre évolution, on peut décider qu'on va arrêter de gérer une forêt, pourquoi pas. Il faut bien communiquer sur ce que ça va rendre en termes de paysager, et que ce genre de forêt n'est pas une forêt qui serait très utile pour le tourisme ou pour la récréation, parce que c'est des forêts où ben, voilà, il y a des arbres qui tombent,
tout. Si on prend l'Amazonie, ça ferait l'Amazonie ou ça ferait pas l'Amazonie?
Ouais, c'est ça, en fait.
Ça ferait l'Amazonie.
Voilà, c'est ça.
Et encore, on peut même pas comparer. Parce
avec moins de moustiques, tout ça, quoi.
Ça pousserait moins vite, quand même.
On n'aurait pas les mêmes essences, les mêmes arbres.
Voilà. Mais en termes de circulation. Mais alors, sur les parcelles abandonnées, moi, que j'ai, où je m'amuse à aller, où il n'y a plus grand monde qui va, en termes de circulation, c'est vrai qu'une machette, c'est bien. Par contre, ce qui me semble très important en termes de communication, c'est qu'il y a une dissonance, notamment dans les publics urbains qui n'ont plus d'activité en forêt autre que des activités récréatives, entre ce que je vois comme forêt et ce qui a permis d'arriver à cette forêt. Donc ce qu'ils voient comme une forêt naturelle qui aurait poussé tout seul, et ce dans quoi on est parti, qui satisfait nos besoins de naturalité, n'est pas une forêt naturelle comme on l'entend. Et c'est ça qui peut être risqué dans les choix, en fait. Et je pense qu'il faut communiquer là-dessus. Et après, on peut tout à fait décider de laisser des forêts libres évoluer.
Je voulais juste réagir à deux choses encore, et après on continuera. Vous nous avez dit il faut nous en parler, de cette ligne écoute. On va en parler de cette ligne écoute. Donc c'est une ligne très haute tension où régulièrement, en fait, il passe le gyrobroyeur pour faire propre et qu'il n'y ait pas, en fait, des arcs électriques qui puissent se créer. C'est une gestion très classique. Hein, sur.
Peut-être expliquer le gyrobroyeur.
Voilà. ça peut des fois être
très haute tension, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ligne 400 000 volts, c'est les plus fortes tensions électriques qu'on ait en France.
Et ça fait des arcs.
Donc, ce sont en fait des lignes qui sont dédiées à sortir l'énergie des centrales de production d'énergie. Donc, c'est les mêmes lignes qui sortent aussi les centrales nucléaires.
Ça nous a apporté une autre problématique sur cette forêt. Lors de la création, en fait, de cette ligne, il y avait de la forêt, en fait, sur cet endroit-là. Donc il y avait une ambiance forestière, une immunité forestière. Et donc, en fait, on constate que tout ce qui a été sur 100 mètres, 150 mètres de part et d'autre de la ligne, on a eu des très très forts dépérissements, et ça continue encore, puisque du coup on a perdu cette ambiance forestière. On est sur un milieu dit ouvert, et donc plus on va là-haut, plus c'est forestier. On l'a vu là où on avait garé nos voitures, etc. Ça reste une ambiance forestière. Ici, on est toujours sur une forêt, puisqu'on le voit, hein, regardez, il y a des petits arbres qui cherchent à revenir, mais on n'est pas sur une forêt mature, là, hein, on est vraiment sur autre chose. Donc, ces introductions en forêt, donc création de pistes, de lignes électriques, maintenant on a beaucoup de développement de micro-centrales, donc j'imagine que c'est votre thématique RER sur les énergies, etc. C'est intéressant, mais il faut bien prendre en compte tous ces aspects-là pour justement voir si ça peut avoir un impact ou pas au niveau de la forêt et peser cet impact.
Oui, parce que ça a un impact. Ça modifie des choses, mais après il y a aussi des choix à faire, quoi. Si on veut de l'électricité,
Moi, je pense aussi qu'il faut avoir une forme d'éducation. Je crois que c'était vous qui le disiez. Nous, en fait, on constate que les jeunes générations ne sont pas forcément très sensibilisées aux questions forestières. Le changement climatique, ils en entendent parler par leurs instituteurs, etc. Par contre, la forêt, savoir distinguer, trouver ce que c'est qu'un être, un érable, un sapin, un épicéa, c'est compliqué.
Ça va même plus loin
et
que ça.
Donc nous, l'idée, c'est d'avoir aussi des forêts, et c'est pour ça peut-être que ça peut être un sujet d'ouverture au niveau du conseil de développement. Nous, on aimerait créer une école de la forêt sur Prémol, donc juste en dessous, en fait, de Séchilienne, parce que le site s'y prête, que c'est un site métro qui est entouré d'un écrin forestier, que les bus peuvent monter pour amener des classes, et ça, une école de la forêt, c'est très manquant, en fait, à l'échelle de Grenoble.
La méconnaissance des forêts fait que les gens, pour pouvoir continuer à avoir des forêts, vont se soulever soulever c'est pas le bon mot, mais en tout cas protester et des fois avoir des actes d'incivilité vis-à-vis de coupes dans des forêts comme celle-ci, en pensant que la coupe vient endommager la forêt alors qu'ils sont dans une forêt qui a toujours été gérée comme ça. Il peut y avoir par méconnaissance des prises de décision, et des fois ça se voit chez les élus, qui vont générer des forêts qui ne sont pas ces forêts-là. Donc ça, il y a un point de vue qui est très important. Et cette méconnaissance-là pour les transitions, je vais sortir un peu de la forêt, il ne faut pas de la forêt partout, hein, en termes de biodiversité. Hein. Et la forêt a tendance à aller à beaucoup d'endroits. Si vous êtes peut-être baladé en alpage, les alpages, par exemple, si vous êtes allé au col du Lautaret, je ne sais pas si vous voyez le col du Lautaret, le col du Lautaret, c'est quelque chose qui a été déboisé, alors j'ai plus le chiffre, mais c'est 3 000, 4 000 ans, quoi, on estime. Et depuis 3 000, 4 000 ans, il y a un écosystème dont l'humain fait partie, un socio-écosystème qui s'est développé. Si on plante des arbres de partout parce que la forêt c'est bien et il y a une tendance parce que...
Oui, planter des arbres,
oui, vous achetez quelque chose, on plante un arbre, monsieur Emmanuel Macron veut planter plus d'arbres. Pourquoi ? Parce que la forêt est considérée comme l'élément naturel par excellence éloigné de l'humain. Donc on se dit, si on veut sauver le climat, il faut planter des arbres. C'est un peu comme au 19e siècle. Et en fait, c'est pas bon. Mais s'il n'y a pas cette connaissance des forêts, c'est comme ça que ces politiques-là fonctionnent et qu'on ne va pas au bon endroit, en fait, et qu'on ne prend pas en compte la complexité de nos écosystèmes. En fait.
Oui, moi je trouve que dans ce que vous décrivez, il y a un clivage, on pourrait dire anthropologique, hein, entre est-ce qu'on continue hors sol. Il y a toute une tendance idéologique à dire il faut être hors sol, hein, on uniformise, on acclimate, etc. Ou est-ce qu'on doit regagner dans nos capacités d'être ancré dans le sol, prendre pied, comme dit la langue populaire, hein, par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, hein. Moi, je suis persuadé qu'il faut absolument reprendre pied dans le réel, sinon je ne vois pas d'issue, quoi. Le hors-sol, on est mort.
En termes écosystémiques, c'est intéressant d'être localisé. Éduquer, en fait.
Le problème, c'est pour pouvoir... Et pas que les enfants. Voilà.
Pas que les enfants.
Il faut éduquer, parce qu'en fait, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. En fait.
On marche, mais on peut parler en marchant, d'ailleurs.
Allez, on va y arriver.
C'est vraiment passionnant. Hein.
Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de forêt ici ? Enfin, si, on a une forêt. Moi, je vois une forêt en devenir, mais elle a eu quelques petits soucis. Donc ici, on est sur le pic de l'Euilly, parcelle C de la forêt communale de Séchilienne. Habituellement, on donne plutôt des nombres, mais là, en fait, on a un lettrage pour les parcelles, donc c'est historique. Donc ici, on a eu des dépérissements successifs depuis aux alentours de 2003. La sécheresse de 2003, qui a été très forte sur ce secteur-là. Et progressivement, d'année en année, tous les ans, le forestier venait chercher des arbres. Donc c'est un forestier, puisqu'il restait 38 ans sur le poste. Donc du coup, en plus, c'est intéressant, on avait sa mémoire à Patrick Boyer. Et tous les ans, il venait chercher quelques dizaines d'épicéas. Et où on a de l'herbe qui s'est installée. Et quand de l'herbe s'installe, ça peut être intéressant, mais ça a tendance à nous bloquer la régénération naturelle. Donc je vous parlais, les petits semis qui viennent naturellement. Là, il y a trop de lumière au sol, en fait. Donc c'est, le forestier dose la lumière, sculpte la lumière, mais quand il y en a trop, il y en a trop. Et là, en l'occurrence, il y a trop de lumière au sol. Donc l'idée ici, c'était depuis 2018, on cherche à renouveler cette forêt, cette partie de forêt. Et donc là, on a reboisé, parce que sinon on se dit, l'épicéa, c'est pas très intéressant, puisqu'on voit qu'il dépérit. Donc là, on a mis du mélèze, 1160 plants, du sapin, 460 plants. Donc c'est pas du sapin local, c'est du sapin qui vient du sud de la France et qui est normalement plus adapté, enfin qu'il a dans ses gènes, où il est plus adapté a priori à la sécheresse. Du hêtre, pareil, qui vient du sud, de l'érable sycomore, et du tilleul à petites feuilles, pas à grandes feuilles, parce que le grande feuille aime beaucoup. Et ensuite, sur les 2 hectares autres, on aura de l'érable champêtre, de l'érable plane et du merisier. Donc nous, on a fait le choix de ne pas partir sur des essences trop exotiques, quand même une substitution d'essence, hein, parce que on va partir sur quelque chose de beaucoup plus... On ne va pas partir sur de l'épicéa, alors que c'est le modèle de base, un petit peu de sapin, mais du mélèze, qui habituellement est beaucoup plus... Quand on est dans les Hautes-Alpes, on y croit beaucoup sur le mélèze, parce que du coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une essence pionnière. Donc,
vous allez crocheter pour le faire partir ou...
Donc c'est de la plantation. Hein. Donc du coup, on va, si tu veux,
préparer
le sol avec le godet, et puis après, on va planter et protéger. Le seul défaut que j'y vois ici, c'est que du coup, on utilise des poches plastiques, et le plastique, c'est pas fantastique, et que ça contribue lui aussi, enfin, c'est le sapin qui se mord la queue, quoi, pour protéger. Je suis obligée de mettre du plastique, c'est un plastique qui est non recyclable, qui est d'ailleurs non issu c'est un plastique vraiment, c'est un déchet ultime, hein, ce truc, ça se recycle très mal.
La toile de jute, ça fait quoi ?
Non, en fait, la toile de jute, ça n'a pas. Nous, il faut que ça reste au minimum entre 5 et 8 ans en place. Et la toile de jute, elle se dégrade. Si jamais la forêt vient à tourner de l'œil sur l'ensemble du massif, sur 600 hectares, il est impossible de faire ce système-là. Ça coûterait beaucoup trop cher et il vaudrait mieux laisser faire la nature. Par contre, voilà, c'est de dire je suis proactif, j'essaye de trouver trouver une solution localement. Peut-être que ça va nous amener à un débat plus serein avec les chasseurs, puisque du coup, on va leur demander de chasser préférentiellement ici et de se poster. C'est-à-dire qu'on leur demande de changer leur pratique de chasse, notamment, de dire, ben, vous n'allez pas forcément faire comme d'habitude, ou vous êtes positionné un petit peu à droite, à gauche, et puis vous téléphonez au talkie-walkie, peut-être de faire plus de tracafus, qui n'est pas forcément qu'avec un positionnement de mirador, pour avoir un tir fichant au niveau des cerfs. Donc c'est toute une technique de chasse qui sera amenée à être revue, et donc ça peut être un site expérimental aussi. Et c'est de se dire, on le fait ici, on le fera probablement pas partout ailleurs, on diversifie le plus possible les essences dans ce qu'on a, parce qu'en fait c'est pas le tout. Ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui veulent planter, mais on n'a pas forcément anticipé le fait de récolter les graines, d'avoir les pépinières qui soient suffisamment importantes, à proximité.
La production de plantes suffit
pas. On ne sait pas, parce que je prends une graine et puis hop, je la mets dans une pépinière, ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est très contrôlé. Hein. Il y a des MFR, du matériel forestier de reproduction. Il faut que ça vienne de certains endroits et pas d'autres. Il ne faut pas que je mélange mes ressources génétiques de façon n'importe comment. Donc là, je fais venir des sapins qui viennent du sud. Il faut que j'ai une dérogation pour le faire. Parce que normalement, il faut que ce soit des sapins locaux. Et là, je fais un test en gestion, donc j'ai le droit de faire une dérogation locale pour pas après mélanger le patrimoine génétique de ces différentes essences. Parfois, mais en tant que forestière, quand j'en arrive là, c'est plutôt un sentiment d'échec. C'est-à-dire que la régénération naturelle n'a pas fonctionné, j'ai eu des forts dépérissements au niveau des arbres. Donc on se remet en question sur, est-ce qu'on n'avait pas trop prélevé d'arbres ? C'est possible, des fois quand on prélève trop, et ben on crée ces grosses ouvertures qui ont des fois qui peuvent contribuer à des dépérissements. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais il faut se remettre sans cesse en question, en dire, est-ce que j'avais bien fait ? Est-ce que j'ai pas créé trop de tassements au sol ? On se remet en question, une fois qu'on s'est remis en question et qu'on essaie de trouver des solutions financières qui soient tenables pour chacune des parties. Le département a fait ce choix politique de dire, je souhaite planter. La commune de Séchelienne me dit, moi, je veux bien investir. Moi, en tant que forestière, je dis, j'ai le temps et la disponibilité de le faire avec les ouvriers forestiers. Faisons-le. Actuellement, je teste sur Prémol des itinéraires avec des protections en laine de mouton. Donc, parce que le mouton, c'est pas pour une protection physique. Là, c'est une protection physique. Hein. C'est vraiment pour pas qu'ils aillent le grignoter. La laine de mouton, c'est une protection olfactive. C'est-à-dire que les chevreuils, les cerfs et les chamois supportent pas cette odeur. Donc en fait, ça peut être intéressant de les repousser avec quelque chose qui est naturel.
Elle fonctionne, cette protection ?
Alors ça fonctionne, mais c'est vrai que, est-ce que ça va fonctionner dans le temps ? C'est ça notre question. Est-ce que ça va fonctionner pendant 5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à ce que l'arbre sorte, ce qu'on appelle, qu'il soit hors de la dent du gibier. Donc c'est le terme un peu technique.
À peu près quoi comme hauteur ?
Ça dépend de la hauteur, parce qu'en fait, ils font pas que croquer, et après ils frottent également notamment les chevreuils, ils enlèvent le velours de leur bois. Alors, il y a à la fois, ça a même le sens, ça a l'air de les démanger quand ça pousse, mais il y a également une forme de marquage de territoire, et donc ils frottent, etc. Alors, le frottis, vous pouvez avoir un arbre comme ça, il peut se faire frotter, et avec les conditions climatiques que l'on a, par exemple celui-ci, là, le petit épi, s'il se fait frotter, je ne suis pas sûre qu'il résiste. Hein. En forêt également, c'est important à vous dire, parce que j'en vois ici, en hiver, chez les ongulés, 80% de leur bol alimentaire, c'est ça, c'est de la ronce, c'est de la framboise. Donc en fait, c'est hyper important de laisser des zones qui sont non boisées, et avec justement laisser un peu entre guillemets en friche. C'est ce que vous avez qui est juste de l'autre côté. De l'autre côté, les forestiers, ça fait maintenant plus de 15 ans, ils ont créé une mare pour que justement les ongulés puissent avoir accès à de l'eau, et également laissent une lisière forestière. Donc entre l'interface, entre le milieu vraiment ouvert et le milieu qui est fermé, boisé, avoir une interface de zone en libre évolution avec de la ronce, de la framboise, parce que ça constitue l'alimentation en hiver. Et quand ils ne trouvent pas ça, quand vous faites hyper propre, et ben ils vont aller s'attaquer, ils mangent ça comme des bonbons. Donc voilà, on essaye d'agir à tous les niveaux.
Pour pratiquer souvent des techniciens de l'ONF, souvent, c'est le genre de choses dont ils sont. Enfin, même s'il y en a qui sont là un peu à l'ancienne, couper du bois.
C'est des castors, on les appelle des castors.
Voilà. Wow. Bah, même eux, quand moi j'ai l'habitude, quand je travaille sur une nouvelle forêt, bah, je vais voir le technicien, je dis bah, vas-y, montre-moi ta forêt, quoi, on passe une journée en forêt ensemble. Et ce genre de choses-là, en général, c'est le genre de choses.
La fierté.
Qui n'a rien à voir. Ah, tiens, regarde, là, j'ai gardé un arbre, j'ai un machin. Donc, ça, c'est des choses auxquelles ils font attention. Ils passent leur journée, enfin, pas. beaucoup de travail administratif au bureau. Hein. Pas non plus idéaliser le métier. Mais du coup, c'est aussi, ça reste quand même ceux, on dirait à l'ancienne, qui veulent couper du bois, ils ont une sensibilité au milieu qui est très importante, parce qu'en fait, c'est leur outil de travail, ils sont tous les jours. Et ces choses-là, ils y font attention. En général, c'est la fierté.
On va continuer, mais en pique-niquant. Peut-être. Sinon, on va être hors sujet.
Il fait faim, on se
replie dans la zone de pique-nique et on discute tout autant. Mais tout
donc,
en
on a pris deux gros 4x4 plein de diesel et on a amené le pique-nique.
On est venu en hélicoptère.